L'Éternel avait donc désigné à Élie qui sera son successeur. Il était temps qu'il passe le relais. Il lui a désigné donc que ce serait Élisée qui le remplacerait. Et aussi, Dieu avait dit à Élie que le roi de Syrie, eh bien, ça sera Hazaël qui succédera au roi de Syrie, Ben-Hadad, à l'époque. Donc, c'est un roi 19, 15 et 16 qu'on a vu la semaine dernière. Et donc, mais on n'en est pas encore là. Élie connaît la suite de l'histoire, puisque Dieu le lui a révélé. Nous connaissons aussi la fin de l'histoire, lorsque le Seigneur reviendra. Et donc, même s'il y a beaucoup de troubles, et le texte que nous allons voir aujourd'hui, bien, ça bouge, hein, eh bien, le Seigneur connaît la fin de l'histoire, il l'a révélé dans sa parole, il reviendra, et donc, autant de raisons de lui faire confiance. Donc, là où nous en sommes, Élisée n'a pas encore pris son service, et donc Ben-Hadad règne encore sur la Syrie. Et il assiège, voilà que Ben-Hadad assiège la Samarie. Et donc Ben-Hadad, le roi de Syrie, et Akab, le roi d'Israël, se font encore la guerre. Nous en sommes là. On reprend notre lecture à 1 roi, chapitre 20. Au début du chapitre, et je vais lire en deux temps, je lirai, donc ça va être une lecture longue, mais en même temps, vous allez voir, il n'y a pas tant de choses que ça qui se passe. 1 roi 20, je lirai jusqu'au verset 41. Donc je vais lire. 1 roi 20. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire « Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes fils les plus beaux sont à moi. » Le roi d'Israël répondit « Monseigneur le roi, selon ta parole, je suis à toi avec tout ce que j'ai. » Les messagers revinrent et dirent « Ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai envoyé dire « Tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes fils. » J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi, ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs, ils mettront la main sur tout ce qui est de la valeur à tes yeux et ils le prendront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et dit « Reconnaissez et voyez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes fils, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. » Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab « Ne l'écoute pas et ne consent pas. » Il dit alors au messager de Ben-Hadad « « Dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois, mais ce que tu me dis là, je ne peux pas l'exécuter. » Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Akab que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui est sur mes pas. Mais le roi d'Israël répondit en ces mots, « Dites-lui que celui qui revêt une armure ne se félicite pas comme celui qui la dépose. » Lorsque Ben-Hadad entendit cette parole, il était en train de boire avec les rois sous les tentes, il dit à ses serviteurs, « À vos postes !» Et ils se postèrent face à la ville. Mais voici qu'un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et dit, « Vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. » Akab dit, « Par qui ?» Et il répondit, « Ainsi parle l'Éternel, par les recrues des chefs de province. » Akab dit, « Qui engagera le combat ?» Et il répondit, « Toi !» Alors Akab passa en revue les recrues des chefs des provinces, et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les Israélites, et ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad buvait comme un ivrogne sous les tentes avec les 32 rois venus à son aide. Les recrues des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad envoya aux nouvelles, et on lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Il dit, s'ils sortent pour la paix, saisissez les vivants, et s'ils sortent pour le combat, saisissez les vivants. Les recrues des chefs des provinces et l'armée qui les suivait sortirent de la ville. Ils frappèrent chacun son homme, et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, s'échappa sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Verset 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit « Va, fortifie-toi et reconnais et vois ce que tu as à faire, car l'année prochaine, le roi de Syrie montera contre toi. » Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent « Leur Dieu est un Dieu des montagnes, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Combattons-les plutôt dans la plaine, on verra bien si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci, écarte chacun des rois de son poste et remplace-les par des gouverneurs. » Toi-même, forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, cheval pour cheval et char pour char. Puis nous les combattrons dans la plaine, et on verra bien si nous ne serons pas plus forts qu'eux. » Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Afek pour combattre Israël. Les Israélites furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et marchèrent à leur rencontre. Les Israélites campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, « L'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Ils campèrent 7 jours, les uns en face des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea, et les Israélites abattirent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Afek, et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était enfui, il arriva dans la ville où il allait de chambre en chambre. Verset 31, ses serviteurs lui dirent « Voici que nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois pleins de bienveillance. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. » Ils s'enroulèrent des sacs autour des reins et de cordes autour de la tête, et vinrent auprès du roi d'Israël. Ils dirent « Ton serviteur Ben-Hadad dit « Laisse-moi la vie. » Akab répondit « Est-il encore vivant ? Il est mon frère. » Ces hommes tirèrent de là un bon augure et se hâtèrent de le prendre au mot et de dire « Ben-Hadad est ton frère. » Il dit « Amenez-le. » Ben-Hadad sortit vers lui et Akab le fit monter sur le char royal. Ben-Hadad lui dit « Je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père et tu auras des comptoirs à Damas, comme mon père en avait à Samarie. » Et moi, reprit Akab, je te laisserai repartir avec une alliance. Il conclut une alliance avec lui et le laissa repartir. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon de la part de l'Éternel, « Frappe-moi donc !» Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, « Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. » Or, quand il l'eut quitté, le lion l'attrapa et le frappa. Il trouva un autre homme et dit, « Frappe-moi donc !» Cet homme le frappa. Il le frappa et le blessa. Le prophète alla se tenir sur le chemin du roi. Il s'était masqué avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, « Ton serviteur était engagé au milieu du combat, et voici qu'un homme s'écarte et m'amène un homme en disant, « Garde cet homme, s'il est porté manquant, ta vie répondra de sa vie ou tu paieras un talent d'argent. » Pendant que ton serviteur était en action, ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, « C'est là ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. » Aussitôt, le prophète écarta le bandeau de ses yeux, et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Il dit alors au roi, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé partir de ma main l'homme que j'avais voué à l'interdit, ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. » Le roi d'Israël s'en alla chez lui, maussade et furibond, et il arriva à Samarie. Amen. Jusqu'ici notre lecture, c'est pas fini encore. Alors, j'ai intitulé mon message « Frère ennemi ». Et déjà, ce texte dit pourquoi. « Frère ennemi » et j'ai résumé donc ce passage-là et le passage qui va suivre aussi par cette phrase. « On finit par ressembler à celui avec qui on fraternise, ennemi ou ami. On finit par ressembler à celui ou celle avec qui on fraternise, ami ou ennemi. » Et donc, je vais voir ça en 3 points. Premièrement, nous verrons, comme ce texte nous l'indique, qu'il est possible de vaincre l'ennemi. Deuxièmement, mon deuxième point, ça sera qu'on ne fraternise pas avec l'ennemi. Troisièmement, nous verrons que la grâce de Dieu fait des croyants ses amis et des frères et sœurs en Christ appelés à lui recevoir. La grâce de Dieu fait des croyants ses amis et des frères et sœurs en Christ appelés à lui ressembler. Ce sera mon troisième point. Premièrement, eh bien, voyons qu'il est possible de vaincre l'ennemi. Voilà donc Ben-Hadad hein, qui assiège Samarie et qui va voir le roi Akab et qui le somme de lui donner ses femmes, les plus beaux de ses fils, son or, son argent. Et donc Akab, eh bien, il se voit réduit à l'impuissance. Effectivement, les Syriens sont bien, bien plus nombreux. Et Akab, eh ben, il va même jusqu'à se donner lui-même à son ennemi et à Ben-Hadad lui demander pas ça. Le roi d'Israël répondit, verset 4, « Monseigneur le roi, selon ta parole, je suis à toi avec tout ce que j'ai. » Il se donne lui-même. Et Akab nous rappelle l'homme esclave de son péché et qui est réduit à l'impuissance, incapable de lutter par lui-même avec le mal, contre le mal. Ben-Hadad, il représente le diable, notre ennemi à tous. Et Akab nous rappelle l'homme qui est incapable de combattre par lui-même ses ennemis, et notre ennemi, le diable. Mais vous avez remarqué, Akab, lui, il ne cherche même pas à lutter à ce stade-là. Et il va même jusqu'à se vendre à son ennemi, pour devenir en quelque sorte son vassal. Ben-Hadad, le seigneur des terres, et Akab se propose de devenir son vassal. Et en quelque sorte, il se vend à son ennemi en échange de quoi ? En échange de la paix. De la paix. Mais ça ne marche pas. Ben-Hadad réitère sa demande, il précise bien qu'il veut ses femmes, ses fils, son or, son argent, ses richesses. Et là, autant Akab, il avait compris que c'était juste devenir son vassal, là, ça il acceptait, mais là, tout lui laisser, ses femmes, ses fils, ses biens, le laisser piller tous ses biens, non, ça il ne peut pas le faire. Et là, il n'accepte pas, parce qu'auparavant, il a demandé conseil auprès des anciens et du peuple. Et là, Ben-Hadad, c'est quelqu'un qui était porté sur la boisson, hein, un ivrogne, hein, le texte le dit, il se met en colère. Et il va se poster face à la ville, prêt à l'attaquer avec ses 32 rois alliés. Mais Dieu, pendant ce temps, il ne reste pas sans rien faire. Pendant ce temps, Dieu travaille. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va secourir le méchant roi Akab. Comment ? En lui envoyant un prophète. Un prophète dont on ne connaît pas le nom. On sait pas, il ne s'agit pas d'Élie. Enfin, en tout cas, le texte ne mentionne pas son nom. On se rappelle que 100 prophètes avaient été gardés lors de la persécution. Et donc, il y en a encore des prophètes de l'Éternel. Alors, Dieu va venir au secours d'Akab, ce mauvais roi. Et le prophète lui dit que Dieu lui livrera l'armée syrienne le jour même. Et que c'est lui, Akab, qui engagera le combat. Akab qui n'est pas prêt vraiment au combat. Et puis on peut quand même se poser la question, mais pourquoi Dieu agit-il ainsi avec Akab, un si mauvais roi ? Vous avez remarqué, Akab n'a même pas cherché le secours de l'Éternel. Pourquoi Dieu agit-il ainsi avec Akab ? Parce que Dieu n'en a pas fini avec Akab. Dieu veut se révéler à Akab. Il veut que Akab le connaisse. Et on voit toute la miséricorde et la patience de Dieu. Dieu veut se révéler à Akab malgré toute sa faiblesse, malgré toute sa peur. Dieu propose en prêt sa grâce aux méchants. Pourquoi ? Pour qu'il revienne de sa méchanceté. Et aussi pour manifester toute sa gloire, pour montrer à Israël qui clochait des deux côtés, vous vous rappelez, pour montrer à Israël qu'il est le seul vrai Dieu. Même si Israël ne le recherche pas, Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Et effectivement, selon la parole de l'Éternel, première bataille syrienne contre Israël, et première victoire éclatante pour les Israélites. Alors, Ben-Hadad avait donné comme consigne de prendre vivant les Israélites. Il était tellement sûr de sa victoire. Sauf que ça a profité à Israël. Et voyons-y aussi Dieu qui incline le cœur du roi là où il veut. C'est encore Dieu qui a donné la victoire à Israël. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, Israël a une éclatante victoire et Ben-Hadad, le roi, a réussi à s'enfuir une première fois, parce que ce n'est pas terminé. Et le roi Akab, là, il a du corps au ventre maintenant. Hein. Dieu lui a donné la victoire, il est plus courageux, et c'est lui qui va terminer le travail, qui va sortir en dernier au verset 21. Et vous vous rappelez, lui, qui se présentait comme celui qui déposait les armes devant Ben-Hadad, verset 11. Hein. Il a été fortifié par un prophète envoyé par l'Éternel. Et Akab, il a expérimenté une première fois la victoire que Dieu lui a accordée. Il est possible de vaincre ses ennemis, parce que c'est Dieu qui donne la victoire à son peuple. Effet de la grâce divine. Autre effet de la grâce divine envers Akab, c'est que Dieu l'avertit que l'année prochaine, Ben-Hadad, il va revenir. Il y aura encore un combat. Là, il reviendra l'année prochaine. Et donc, l'année suivante, eh bien, le prophète annonce qu'Israël aura encore la victoire sur les Syriens. Pourquoi ? Parce que les Syriens se font une fausse image de Dieu. Ils pensent que Dieu est seulement un Dieu des montagnes. Alors, Dieu veut se révéler. Il veut se révéler à Akab, il veut se révéler à Israël, et il veut aussi se révéler aux Syriens, qu'il n'est pas seulement un Dieu des montagnes, ni un Dieu des plaines, mais qu'il est, je cite Actes 17, verset 24, « Dieu est le Seigneur du ciel et de la terre. » Dieu veut aussi se révéler aux Syriens. Donc, une année s'écoule, nouvelle bataille, Syrie contre Israël, nouvelle victoire écrasante des Israélites en un jour, malgré leur petit nombre. Le verset 27 nous dit qu'ils étaient comme deux petits troupeaux de chèvres. Et les Syriens, ils étaient quand même 100 000 hommes, hein, et plus. Alors, on peut relever quelques détails importants dans cette bataille, parce qu'il s'agit d'une bataille qui peut nous profiter à nous aussi. Avant d'aller au combat, et on est dans un combat spirituel, même si Dieu avait annoncé d'avance la victoire à Akab, eh bien, qu'est-ce qu'Israël a fait ? Le roi a passé en revue son armée. Et c'est là que Israël a dû se rendre compte qu'ils étaient un tout petit nombre face à une armée immense des Syriens. 232 recrues et 7000 hommes en Israël. Israël devait se rendre compte que malgré leur petit nombre, et c'est d'avoir été passé en revue, malgré leur petit nombre, ils ont eu la victoire. Parce que c'est Dieu qui leur donnait la victoire pour manifester sa gloire. Pour qu'Israël réalise que c'est Dieu le sauveur. Et nous aussi, parfois, on peut se sentir bien petit face à une difficulté qui est énorme, et parfois on a peut-être tendance à baisser, à déposer les armes. Mais non, Dieu veut nous donner la victoire, malgré notre faiblesse, malgré les apparences qui nous disent que nous sommes beaucoup moins nombreux, beaucoup moins forts. Mais Dieu veut nous donner la victoire, pourquoi ? Pour mieux manifester sa gloire, et à nous de lui faire confiance. En 2 Corinthiens 12, verset 9, l'Éternel avait dit à Paul, l'apôtre Paul, voici ce qu'il dit, 2 Corinthiens 12, 9, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Si vous vous sentez faible, amen, toute la gloire à Dieu, c'est lui qui fait le travail. Et c'est lui qui donne la victoire. C'est lui qui donne la victoire. Qui veut nous donner la victoire. Donc, premier détail, il fallait que Israël passe en revue son armée pour se rendre compte qu'ils étaient petits et que Dieu peut quand même donner la victoire. Deuxième détail, avant d'aller au combat, eh bien, il faut s'approvisionner. Il faut remplir son sac de vivres. Et c'est ce que nous dit le verset 27. Les Israélites furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et marchèrent à leur rencontre. Donc, avant de foncer à leur rencontre, il fallait qu'ils aient des vivres, il fallait qu'ils prennent des forces. Et nous aussi, nous sommes dans un combat spirituel contre les forces du diable, et nous avons besoin de nous fortifier, parce que par nous-mêmes, ce n'est pas la peine. Le diable est fort, mais il n'est pas le plus fort. Et nous avons besoin de chercher nos forces en Dieu. Donc, comment prendre des forces? Comment prendre des vivres? Comment nous approvisionner? Eh bien, on s'approvisionne avant tout en nous nourrissant de la parole de Dieu. Nous mangeons chaque jour de la nourriture physique, c'est chaque jour que nous avons besoin de lire la parole de Dieu pour être fort. Nous nous approvisionnons aussi en nous réunissant comme nous le faisons ce matin, par notre vie d'église. On se fortifie les uns les autres. On prend des forces aussi comment ? En priant les uns pour les autres. Et le mercredi soir, on se retrouve pour reparler du message et pour prier les uns pour les autres. Et il ne faut pas attendre le mauvais jour pour le faire. C'est quand nous pouvons encore le faire qu'il faut le faire. Que nous avons besoin de nous fortifier en Église. Et à chacun de se poser la question, où en est ma vie de disciple ? De disciple. Tout chrétien est appelé à être un disciple. Où est-ce que j'en suis ? Où est-ce que tu en es ? Alors, deuxième victoire donc pour les Israélites. Et là, de nouveau, Le roi Ben-Hadad, il s'enfuit. Il réussit à s'enfuir. Mais là, ses serviteurs vont lui conseiller de se rendre à Akab. Ses serviteurs ont entendu que les rois d'Israël manifestaient de la bienveillance. Et oui, ils ont un Dieu bienveillant. Notre Dieu est bienveillant. Alors, ses serviteurs proposent à Ben-Hadad de se rendre, de se s'humilier, de s'humilier, de se soumettre à Akab. Pourquoi ? Ben, pour obtenir la vie sauve et pour obtenir miséricorde. Et la réponse d'Akab a de quoi surprendre. Est-il encore vivant ? Il est mon frère, verset 32. Son frère. Et les ennemis, eh bien, ils ont aussitôt rebondi sur le mot frère et ils se sont empressés de répéter : oui, Ben-Hadad est ton frère. Ce sur quoi Akab le fait venir et il va même le faire venir en grande pompe. Il le fait venir sur son char royal, verset 33. La suite de l'histoire montrera que c'est une folie que de fraterniser avec l'ennemi. On ne fraternise pas avec l'ennemi. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Nous avons un ennemi. Et ce texte est là pour nous dire qu'on ne fraternise pas avec l'ennemi. Je vais y revenir. Revenons sur Akab. Akab, il a vécu la double délivrance de Dieu. Dieu lui a donné deux fois la victoire. Mais non seulement Akab n'avait pas recherché les conseils de Dieu, mais après que Dieu lui ait donné la victoire, il ne prend même pas la peine de le remercier. Aucun mot de remerciement. Et non seulement il ne remercie pas Dieu, mais Akab va faire preuve d'une indulgence coupable en allant jusqu'à fraterniser et même à faire alliance avec son ennemi. Et là, dans ce qui suit, il y a une leçon de choses, on peut dire, qui peut nous étonner, mais qui est même étonnante d'ailleurs. Une leçon de choses de la part de Dieu pour faire comprendre à Akab et aussi à nous son erreur. Cette fois, Dieu lui envoie un prophète, on ne sait pas qui c'est, et cette fois, le prophète ne lui annonce pas la grâce ni la victoire, mais le prophète lui annonce le jugement. Et avant de lui annoncer le jugement, le prophète va accomplir quelque chose qui nous est relaté dans ce récit. C'est étonnant, le prophète demande à son compagnon, de la part de l'Éternel, de le frapper. Son compagnon refuse, verset 35. Probablement que son compagnon a voulu lui faire miséricorde. On ne frappe pas un prophète. Sauf que son compagnon, il a désobéi. Et cette désobéissance lui a coûté cher, puisque ça va lui valoir d'être attrapé et frappé par un lion. Alors, le récit ne nous dit pas s'il est mort. Alors, peut-être que les compagnons du prophète... Non, c'est pas peut-être, il n'a pas voulu le frapper. Peut-être par miséricorde. Alors le prophète réitère sa demande auprès d'un autre homme qui, lui, va le frapper et le blesser. Comment comprendre cela ? Pourquoi ce récit-là, juste avant que le prophète annonce à Akab son jugement ? Bien pour nous faire comprendre que si Dieu punit un homme, Dieu punit un homme qui veut faire miséricorde à un prophète, Dieu le punit parce qu'il a désobéi. Il a désobéi à son ordre de le frapper. Si Dieu punit un homme qui veut faire miséricorde à un prophète parce qu'il a désobéi à son ordre de le frapper, quel châtiment encore plus grave sera passible à un mauvais roi qui épargne son ennemi, alors que Dieu lui avait ordonné de le frapper, lui et son ennemi, et son armée, pardon. Une leçon de choses qui est étonnante, mais on voit que nous avons un ennemi, nous ne trompons pas d'ennemi, notre ennemi c'est le diable. Il n'y a pas de miséricorde envers lui. Pour Ben-Hadad, on ne peut pas dire que Ben-Hadad s'est converti au roi d'Israël. Il s'est soumis parce que bon, il n'avait pas le choix, c'était pour sauver sa vie. Il s'agissait plutôt d'une soumission forcée. Sauf que d'avoir laissé la vie sauve à Ben-Hadad, ça a occasionné par la suite bien des problèmes à Israël par la suite, et beaucoup de souffrances. Ce roi va encore causer des souffrances à Israël par la suite, parce que Akab lui a laissé la vie sauve. Alors le prophète, après avoir fait cette leçon de choses, il va laisser lui-même à Akab le soin de prononcer lui-même son jugement, et c'est d'ailleurs, il va le prononcer sans hésitation. Et pour cela, le prophète va utiliser une illustration. D'abord, il se masque hein, parce qu'il était connu en tant que prophète. Et il va utiliser l'illustration d'un serviteur qui avait laissé échapper un prisonnier. Et ce serviteur, il a désobéi au prix de sa vie à l'ordre de le garder. Il a désobéi, il a laissé s'échapper. Et Akab, ne sachant pas de qui il s'agit, sans hésiter, il lui dit, qu'il est d'accord avec ce jugement. Et en faisant cela, Akab se condamne lui-même. Verset 42, je le relis. Donc, le prophète dit alors au roi, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé partir de ma main l'homme que j'avais voué à l'interdit, ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. » Verset 42. Un jugement qui peut sembler sévère, mais si on réfléchit bien, la sécurité d'Israël était en jeu de laisser en vie ou pas Ben-Hadad. Dieu cherchait la sécurité de son peuple Israël. Et lorsque Ben-Hadad a prononcé son propre jugement, est-ce que ça ne nous rappelle pas un autre récit? Vous vous rappelez lorsque David, après son adultère, a été confronté par le prophète Nathan? Eh bien, Nathan, par une illustration, a amené David à prononcer son propre jugement. Et qu'est-ce qui s'est passé? David, à ce moment-là, s'était repenti. David s'était repenti. Or, ici, Akab, c'est pas le cas. Akab ne se repent pas. Comment est-ce qu'il va repartir? Il a un caractère, Akab, il a même un sale caractère. Il va repartir maussade et furieux, verset 43. Il rentre chez lui, il boude, il fait la tête, il est en colère, au lieu de se remettre en question, au lieu de se repentir. Il repart maussade et furieux. Et on va retrouver cette même expression un peu plus loin. Je vous propose de reprendre la lecture. Et là, c'est un récit qu'on connaît mieux, il s'agit de la vigne de Naboth. Donc je reprends à partir du chapitre 21, et là on va voir, et c'est pas étonnant si ce récit suit, le récit de la vigne de Naboth suit immédiatement lorsque Dieu a fait grâce à Akab et lui a donné la victoire. Parce que Dieu avait préservé Akab d'être dépouillé par Ben-Hadad. Et on pourrait se dire, ben quand même, il a compris la leçon, Akab. Dieu lui a fait grâce. Mais là, dans ce qui suit, Akab ne va pas faire grâce à Naboth. Loin d'être reconnaissant, Akab, il va maintenant chercher à dépouiller Naboth. Il convoite sa vigne. Et on finit par ressembler à ceux avec qui on fraternise. Akab va faire la même chose que Ben-Hadad avait fait avec lui. Il va demander à Naboth son bien, comme Ben-Hadad lui avait demandé son bien. On finit par ressembler à ceux avec qui on fraternise. Je reprends donc la lecture à partir du chapitre 21. Après ces événements, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth, « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra chez lui, maussade et furibond, à cause de cette parole qu'il lui avait dite Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, « Donne-moi ta vigne pour de l'argent. » Ou, « Si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël ? Lève-toi, mange de bon cœur. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Elle envoyait des lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Elle écrivit les lettres en ces termes. Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple, et faites asseoir en face de lui deux vauriens qui témoigneront ainsi contre lui. tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. » Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait envoyé dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth à la tête du peuple. Les deux vauriens vinrent s'asseoir en face de lui, et ces vauriens portèrent ce témoignage devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Alors ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth, de Jisréel, qui a refusé de te la donner pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la ville, la vigne de Naboth, de Jisréel, afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël qui est à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes. Ainsi parle l'Éternel. Quoi ? Tu as commis un meurtre et tu prends possession ? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, à l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé, mon ennemi ? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Me voici. Je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, je retrancherai même le moindre de ceux qui appartiennent à Akab, celui qu'on retient et celui qu'on relâche en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baalsha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel a parlé aussi pour Jézabel, et il a dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jisréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans la campagne sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et sa femme Jézabel l'y excitait. Il a agi de la manière la plus horrible, se ralliant aux idoles, tout comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel avait dépossédés devant les Israélites. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son propre corps et jeûna. Il couchait avec ce sac et marchait lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Voilà, donc, même scénario. Comme le roi Ben-Hadad avait demandé à Akab ses richesses, eh bien Akab, il reproduit le même scénario. Il demande à Naboth de lui donner sa vigne familiale. Sauf que Naboth, c'était un de ses propres sujets, un sujet du royaume d'Israël. Mais là, Naboth, il ne se laisse pas impressionner. Ça doit être le roi, il ne se laisse pas impressionner. Il résiste. Et il refuse de céder ou d'échanger l'héritage de ses pères à prix d'argent ou contre une autre vigne, selon ce que lui propose Akab. Naboth, il a su résister au roi. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait la loi de son Dieu. Et Dieu doit passer avant le roi. Effectivement, dans la loi mosaïque, en Lévitique 25, verset 23, dit ceci, « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. » Et oui, tout appartient à Dieu. Alors, eh bien, Naboth lui résiste. Et qu'est-ce qu'il fait, Akab ? La même expression. Il va rentrer chez lui, maussade et furieux. Verset 4. Tout de même, Akab, il est roi. Il possède beaucoup. Il pouvait faire son jardin potager ailleurs que convoiter la vigne de Naboth. Mais non. On peut dire qu'il fait un caprice. Il fait un caprice comme un enfant. Et comme un enfant, il n'accepte pas qu'on lui dise non. Tout de même, il est le roi. Oui, mais il n'est pas Dieu. Et Naboth a fait passer Dieu avant le roi, avant le mauvais roi. Alors, eh bien, Akab se met en colère et il va bouder chez lui, il va se coucher sur son lit. On imagine la scène, un enfant ferait pareil. Alors, il raconte, il se confie à sa femme et à Jézabel, qui a vu qu'il n'allait pas bien. Pourquoi il ne va pas bien, il lui demande. Alors il raconte tout à sa femme. Et là, Akab, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser sa femme, Jézabel, prendre les rênes. Il va lui déléguer son pouvoir, son autorité royale, pour qu'elle puisse agir en son nom, avec des lettres cachetées en son nom. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agir de façon ignoble. Que fait-elle? Elle envoie des lettres au nom d'Akab, hein, aux magistrats et aux anciens de la ville de Naboth, pour leur demander quoi? Je relis les versets 9 et 10. Proclamez un jeûne. Faites asseoir Naboth à la tête du peuple et faites asseoir en face de lui deux vauriens qui témoigneront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Et qu'est-ce qui se passe? Les anciens, mais ils vont faire exactement ce que leur demande Jézabel. Les anciens et les magistrats ont suivi exactement les consignes ignobles de Jézabel. C'est exactement ce qui va se passer. Mais Dieu ne demande pas des choses mensongères à son peuple, et encore moins aux autorités qu'il a établies sur son peuple. Ils auraient pu, les magistrats et les anciens, faire comme Naboth, désobéir à une mauvaise autorité. Et ça, ce n'est pas maudire Dieu. Mais Jézabel, elle était assez ignoble. Parce que vous avez remarqué, elle a utilisé la loi mosaïque contre Naboth. En effet, la loi dit, Deutéronome 17,6, celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou trois témoins. Jézabel fait prendre deux faux témoins. Exode 22, verset 8, tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Naboth va être accusé d'avoir maudit Dieu et le roi. Lévitique 24, 16, le début, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort, toute assemblée le lapidera. C'est ce qui est arrivé à Naboth. Vous avez vu comment Jézabel a utilisé la loi de Moïse contre Naboth de façon mensongère. Et c'est aussi comme ça que le diable procède avec la parole de Dieu. Il la manipule, il manipule faussement l'Écriture. Et donc Akab, eh bien, il a eu ce qu'il a voulu par convoitise. Il a eu ce qu'il a voulu par convoitise, par mensonge, par meurtre et par vol. Ce sont quatre interdits des 10 commandements. Et le voilà, comme si de rien n'était, qui prend possession gaiement de la vigne. Sauf que ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va durer qu'un temps. Qu'est-ce qu'il refait qui fait son apparition? Élie revient. Élie, son vieil ennemi. As-tu trouvé mon ennemi? Mon ennemi, vous avez remarqué, là il appelle mon ennemi. Et là, eh bien, Élie va lui annoncer son jugement de la part de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il s'est vendu. Akab s'est vendu. Alors on pourrait se dire, il aurait pu s'en laver les mains, Akab. Après tout, c'est sa femme. Pas du tout. Akab est responsable d'avoir laissé les rênes à sa femme. Il est le premier responsable de son foyer. Il n'a rien dit. Vous connaissez le proverbe qui est vrai, qui ne dit mot consent. Et là, eh bien, Élie va lui annoncer exactement, mot pour mot, le même jugement que pour Jéroboam, qui a entraîné Israël dans l'idolâtrie. Jéroboam et sa maison, verset 24. Ça rappelle aussi Adam et Ève. C'est Ève qui a mangé du fruit défendu le premier. Et Dieu a annoncé le jugement à Adam, avant Ève. Et Ève aussi a eu sa part. Après le jugement annoncé sur Akab, Dieu annonce le jugement sur Jézabel. Et quel jugement? Elle sera mangée par les chiens. Parce qu'elle a excité son mari à faire ce qui est mal. Les deux sont responsables. Les deux. Et là, eh bien, Akab, pour la première fois, voilà qu'il s'humilie en entendant cela. Dans son parcours, Akab, il a déjà vu Dieu à l'œuvre. Il a déjà vécu les délivrances de Dieu. Et il a certainement compris que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et là, eh bien, pour la première fois, il s'humilie. Alors il s'humilie, mais est-ce qu'il s'agit d'une tristesse qui va le faire changer, qui va le mener à la repentance? Non. Non. Ça sera pour plus tard. Une vraie tristesse, selon Dieu, elle doit mener à une repentance. À salut, une repentance dont on ne se repent pas. 2 Corinthiens 7, 10, En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Si Akab s'était vraiment repenti, on aurait vu des fruits dans sa vie, mais ce ne sera pas le cas. Une vraie repentance, elle s'accompagne de fruits qui sont dignes de la repentance. Luc 3, verset 8, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, que de ses pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Non, la suite de l'histoire montrera que Akab ne s'est pas repenti à sa vie, même s'il manifeste une tristesse à ce moment-là. Pourtant, à ce stade, Dieu va encore lui faire grâce. Le châtiment ne sera que différé, ça ne va pas tomber de son vivant, et ça arrivera sur son fils et sur sa maison. Dieu lui fait encore grâce. Effectivement, Dieu fait grâce, il veut pardonner. Ézéchiel 33, verset 11 nous le dit bien. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire. Ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Il a encore la possibilité, à ce stade-là, de manifester une vraie repentance. Mon troisième point, c'est que la grâce de Dieu fait des croyants ses amis et des frères et sœurs en Christ, appelés à lui ressembler. Akab a ressemblé à Ben-Hadad, son ennemi avec qui il a fraternisé. Mais Dieu nous appelle à fraterniser avec quelqu'un d'autre, avec son fils, pour lui ressembler et devenir des frères et sœurs. Dieu est Dieu qui veut pardonner, mais attention, il ne tient pas le coupable pour innocent. Et pour concilier son amour et sa justice, eh bien, il a envoyé son fils Jésus. Et ici, Naboth, on dit qu'il est une figure de Christ. Ce qui est arrivé à Naboth illustre ce qui arrivera bien des années après, à Jésus. Parce qu'ici, il s'agit d'une vigne, d'un héritier de la vigne, et Jésus, c'est lui l'héritier. Il est l'héritier de la vigne de l'Éternel. La vigne de l'Éternel, c'est qui ? C'est nous, c'est son peuple, c'est le peuple de Dieu. Et Jésus est l'héritier de son peuple. Et le peuple de Dieu a aussi été convoité par l'ennemi. Et l'ennemi continue de convoiter le peuple de Dieu. Et l'ennemi voulait tuer l'héritier. Le diable voulait faire tuer Jésus. Selon la parabole en Matthieu 21, verset 38, parabole du vigneron, mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ça nous rappelle Naboth. Hein. Vouloir tuer l'héritier. Là, en l'occurrence, l'héritier, c'est Jésus que voulait tuer les chefs religieux. Autre parallèle avec Naboth. Jésus, il a été accusé faussement de blasphème. Par qui ? Par deux faux témoins quand il a comparu devant le Sanhédrin. Puis il a été condamné à mort. Je lis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 60. Mais ils ne trouvèrent pas de témoins, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux pour le procès de Jésus. Et verset 65-66, du chapitre 66 de Matthieu. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé, car nous avons encore besoin de témoins. Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous en semble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Même sort que pour Naboth. Même manigance. Naboth a été lapidé hors de la ville. Jésus sera mis à mort hors de la ville. En Hébreux 13, verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, hors de la ville. Naboth, donc une figure de Christ. Et je reviens à cette image que le prophète avait donnée quand il a demandé à son compagnon de le frapper, pour montrer qu'il ne fallait pas laisser s'échapper l'ennemi, qu'il fallait le détruire. Notre ennemi à nous n'est pas Ben-Hadad. Notre ennemi à nous, nous en avons un qui est extérieur à nous, c'est le diable. Et nous en avons un qui est intérieur à nous, c'est notre péché. Jésus est venu pour détruire les deux. étant la parole de Dieu incarnée, donc il était prophète, Jésus a accepté d'être frappé et crucifié à notre place pour ne pas laisser s'échapper ses ennemis que sont le diable et notre péché. Parce que ses ennemis doivent être détruits. Le diable n'est pas encore détruit. Il sera jeté dans les temps de feu à la fin des temps. Notre péché, lorsque nous avons accepté Christ, nous devons nous considérer comme morts au péché. Il ne doit pas. Jésus est venu pour détruire le péché. Et c'est comme ça, il ne doit pas avoir de pouvoir sur nous. Jésus est venu pour détruire les deux. Et pour cela, il a accepté d'être frappé et crucifié à notre place, pour ne pas laisser s'échapper, qui sont beaucoup plus puissants, ses ennemis qui sont beaucoup plus puissants que Ben-Hadad, le péché et le diable, et pour qu'ils soient détruits à terme. Ne faisons pas comme Akab. Akab, c'est vraiment un contre-exemple à ne pas imiter. Ne méprisons pas la grâce de Dieu. Dieu a fait grâce à Akab, mais plutôt remercions-le ce que n'a pas fait Akab. Akab, il représente tous ceux qui sont insatisfaits. Il était quand même roi, il avait plein de richesses. Il représente tous ceux qui sont insatisfaits et qui convoitent ce qu'ils n'ont pas. Effectivement, ce ne sont pas les richesses qui peuvent remplir le cœur. Ne faisons pas comme Akab qui s'est vendu pour faire ce qui est mal, verset 20. L'insatisfaction de notre cœur ne peut être comblée que par Jésus. Jésus nous a rachetés de notre ancienne vie. 1 Corinthiens 7, 23, je vais terminer peu après. Vous avez été rachetés à grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Nous avons été rachetés, nous ne nous vendons pas à l'ennemi. Ne fraternisons pas avec le monde comme Akab. Je précise, ne fraternisons pas, Dieu aime le monde. Il nous invite à aimer notre prochain qui ne connaît pas le Seigneur. Mais il y a une marge entre l'aimer et fraterniser avec lui, avec quelqu'un qui ne confesse pas Christ. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Sont enfants de Dieu, seuls ceux qui ont accepté Jésus son Fils. Eux, ce sont nos frères. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Mais nous ne pouvons pas nous dire frères et sœurs de ceux qui n'ont pas accepté Christ ou qui le rejettent, même si Dieu les appelle et les appelle encore, comme il a appelé Akab à revenir. Et puis comme Naboth, gardons l'héritage que Dieu nous réserve dans les cieux. Naboth, il n'a pas voulu brader son héritage. Ne bradons pas notre héritage. Nous qui croyons en Jésus, ne le bradons pas contre des richesses terrestres. Et ne bradons pas non plus les vérités de la parole de Dieu que Dieu nous a laissées en dépôt. Ne les bradons pas contre les mensonges de ce monde. 1 Timothée 6, 20, 21 nous dit « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. » Ne bradons pas les vérités de la parole de Dieu. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur pour ces récits qui nous montrent à la fois comme quoi tu es intransigeant avec le mal, Seigneur. Tu es venu pour détruire le péché, pas pour que nous soyons complaisants avec, Seigneur. Merci pour ce rappel et merci parce que tu nous rappelles aussi que tu peux nous donner la victoire, Seigneur, sur nos ennemis, sur notre péché et le diable. Tu peux, Seigneur, tu l'as fait avec Akab, tu as été patient. Et Seigneur, tu nous aimes, nous qui avons accepté ton Fils, tu nous as à plus forte raison, nous qui sommes devenus tes enfants. Tu peux nous donner la victoire. Garde-nous, Seigneur, des séductions du diable. Garde-nous de fraterniser avec l'ennemi, Seigneur. Donne-nous d'aimer notre prochain. Celui qui ne te confesse pas, donne-nous de le voir avec tes yeux, en étant patient, en reflétant ta lumière et ton amour, sans faire de compromis, Seigneur. Garde-nous d'être complaisant avec le péché. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as tout accompli à la croix. Et la victoire est possible à celui qui croit en Jésus. Amen. Amen.